Laudetur Jesus Christus.
Audience du pape François au président français, Emmanuel Macron s'est rendu au Vatican pour la seconde fois de son mandat après avoir signé un traité bilatéral de coopération renforcée avec l'Italie ce matin. On y revient dès le début de ce journal. Crise migratoire en Manche, Paris et Londres ont du mal à communiquer. La proposition du Premier ministre britannique de demander à la France de reprendre tous les migrants irréguliers est jugée inacceptable par le gouvernement français. La sécheresse en Iran et la colère montante de la population, le problème de l'eau n'a rien d'inéluctable. Il révèle surtout une mauvaise gestion, c'est ce que nous verrons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonsoir. Rencontre donc ce matin au Vatican entre le pape François et le président de la République française, Emmanuel Macron. Il s'agissait de leur deuxième entrevue après une première audience au Vatican en juin 2018. Les deux chefs d'État qui se tutoient avaient également eu plusieurs contacts par téléphone ces dernières années, notamment après l'incendie de Notre-Dame de Paris, du premier confinement lié à la pandémie de Covid-19 et de la publication du rapport de la CIAZ. Retour en tout cas sur cette dernière rencontre ce matin avec Cyprien Viette.
Cette fois-ci, l'entretien entre les deux hommes qui ont montré une certaine familiarité a duré une heure, de 11h05 à 12h05. Le chef de l'État français a ensuite longuement rencontré les responsables de la secrétaire d'État. Cinq semaines après la visite du Premier ministre Jean Castex, ces entretiens ont permis de souligner les bonnes relations entre la France et le Saint-Siège dans le contexte du centenaire de leur reprise. Le communiqué diffusé par la salle de presse fait savoir que différents thèmes internationaux ont été abordés avec Emmanuel Macron, parmi lesquels la protection de l'environnement à la lumière des résultats de la récente COP26 de Glasgow. La prochaine présidence française de l'Union européenne du 1er janvier au 30 juin 2022 a également été abordée, ainsi que l'engagement de la France au Liban, au Moyen-Orient et en Afrique. Outre ces entretiens au Vatican, la visite d'Emmanuel Macron à Rome avait également pour objet la signature du traité du Quirinal, qui formalise le rapprochement diplomatique entre la France et l'Italie. Le président français a par ailleurs rencontré jeudi soir les responsables de la communauté Sant'Egidio. Leurs échanges ont notamment porté sur les couloirs humanitaires pour les migrants provenant de Syrie, de Libye et d'Afghanistan. Ils ont également évoqué l'idée d'organiser un événement mondial en faveur de l'abolition de la peine de mort dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne.
Cyprien Viette, est toujours concernant le pape François, a envoyé une lettre au Forum international de l'action catholique qui fête ses 30 ans. Il y rend hommage à son fondateur, le cardinal argentin Eduardo Pironio. Malgré les ombres et les lumières qui ont traversé le mouvement ces dernières années, le Saint-Père appelle ses membres actuels à ne pas se décourager et à s'engager au service de toute la société, et notamment des plus pauvres. Plus de précisions sur notre site internet. En France, l'archevêque de Paris a remis sa charge dans les mains du pape cette semaine. C'est ce que le diocèse de la capitale française a confirmé aujourd'hui à la presse. Interrogé par nos confrères du quotidien La Croix, Monseigneur Michel Aupetit a précisé qu'il n'avait pas employé le mot de démission, ce qui aurait signifié qu'il abandonnait sa charge. Il a pris cette décision toutefois pour préserver son diocèse après les accusations publiées par l'hebdomadaire Le Point sur sa gestion de l'église de Paris et sur sa vie privée. L'Europe et les flux migratoires, avec la crise entre le continent et le Royaume-Uni, et plus particulièrement entre Londres et Paris après la mort de 27 personnes en Manche cette semaine. Le Premier ministre britannique ne regrette pas la lettre adressée au président français. Lettre écrite dans un esprit de partenariat et de coopération, indiquait son porte-parole. Pourtant, cette missive n'a pas été appréciée par les autorités françaises qui la considèrent comme inacceptable. En conséquence, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annulé l'invitation adressée à la ministre britannique Priti Patel à une réunion prévue dimanche sur la crise migratoire avec quatre autres pays européens. Retour sur cette lettre avec, à Londres, Jean Jaffray.
Dans sa lettre, le Premier ministre britannique Boris Johnson demande notamment à la France, je cite, « de reprendre immédiatement tous les migrants arrivés au Royaume-Uni à bord de petites embarcations au péril de leur vie ». Et la proposition de patrouille conjointe entre Dunkerque et Calais pour aider des gendarmes et garde-côtes français est aussi rejetée en raison du principe de souveraineté. Pour le gouvernement français, la traversée illégale de la Manche par plusieurs dizaines de milliers de migrants par an est essentiellement un problème européen. Une réunion de quatre pays bordant la Manche et la mer du Nord avec un représentant de la Commission de l'Union européenne se tiendra dimanche, mais sans la ministre de l'Intérieur britannique, Priti Patel. reprendre le contrôle de nos frontières était l'un des slogans des partisans du Brexit. Les photos de migrants débarquant quotidiennement sur les plages du Kent préoccuperaient davantage les députés conservateurs que les récents scandales de corruption, les promesses électorales non tenues et l'impopularité de Boris Johnson. Le chef du groupe conservateur aux communes, Jacob Rees-Mogg, n'expliquait-il pas récemment l'aggravation des tensions en invoquant les défaites d'Agincourt et de Trafalgar qui rendraient les Français grincheux en cette période de l'année. Laurent Jean-Jaffré, Radio Vatican.
L'OTAN met en garde la Russie contre les conséquences et le prix à payer si elle a recours à la force contre l'Ukraine avec des forces prêtes au combat. L'Alliance Atlantique s'inquiète en effet de la concentration en Russie de matériel et d'hommes aux abords de la frontière avec l'Ukraine. Selon le secrétaire général de l'OTAN, Moscou multiplie les discours agressifs et ses intentions ne sont pas claires. Et Jens Stoltenberg évoque le précédent de l'annexion de la Crimée. Même analyse du côté de l'Ukraine dont le président Volodymyr Zelensky s'inquiète de signaux très dangereux de la Russie, selon ses propos. Une escalade est possible, estime-t-il. En Russie, journée de deuil après la mort de 51 personnes hier dans un accident dans une mine de charbon en Sibérie. Les responsables de la mine ont été arrêtés. Le propriétaire, un oligarque, lui, n'est pour le moment pas inquiété par la justice. Parmi les victimes figurent 5 sauveteurs. La pandémie de Covid-19 compte un nouveau variant et il fait peur. Il est originaire d'Afrique du Sud. Conséquence quasi immédiate, les vols reliant l'Afrique australe sont suspendus par plusieurs pays européens. Le Japon instaure, lui, une quarantaine aux passagers en provenance de cette région. Ce variant est potentiellement très contagieux et aux mutations multiples. L'Iran, frappé par la sécheresse. Si le pays connaît des épisodes de sécheresse chronique depuis plusieurs années, la situation s'aggrave. C'est le sud-ouest du pays, non loin de l'ancienne Mésopotamie, qui est particulièrement touché. Ces derniers jours, des milliers d'Iraniens sont d'ailleurs descendus dans les rues du pays, comme à Isfahan, pour dénoncer les pénuries, pour crier aussi leur colère contre des projets de transfert d'eau vers d'autres provinces. Entre mauvaise gestion du système hydrique, corruption, problèmes liés au réchauffement climatique, l'eau est devenue un enjeu capital pour la République islamique. Bernard Orcade, chercheur associé au CNRS et spécialiste de l'Iran, revient sur l'ampleur de ces défis pour le pays.
Le sud-ouest de l'Iran, la région du Karoun, c'est-à-dire la Mésopotamie, la basse Mésopotamie, c'est la région qui est la plus irriguée en Iran. Elle regroupe 40% de l'eau iranienne, des fleuves iraniens, sont ces grands fleuves du sud-ouest de l'Iran. Et donc de l'eau, il y en a. Le problème, c'est que cette eau a été détournée, et ceci depuis le XVIe siècle d'ailleurs, est tourné vers le centre de l'Iran, vers le plateau iranien, pour irriguer justement les régions beaucoup plus arides qui ne bénéficient pas de tant de richesses naturelles. Et ce qui était simplement le détournement de quelques milliers de mètres cubes il y a 100 ans, c'est devenu des centaines de milliers de mètres cubes par jour qui sont détournés ainsi du Rouzistan du sud-ouest de l'Iran vers le plateau iranien, un moment vers Ispahan, et là tout allait bien pour les gens d'Ispahan, et maintenant cette eau est détournée pour alimenter les villes du centre du désert, éloignées de 300 à 400 kilomètres des montagnes.
Cette crise liée à l'eau montre que l'Iran est un pays morcelé, où il n'y a pas d'unité entre les provinces, qu'il y a beaucoup de déséquilibre.
Alors justement, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que le fait que le gouvernement, les gouvernements, et ça date aussi de l'époque du Shah, ce n'est pas la République islamique qui a mis cela en place, ces projets de détournement de l'eau et d'apporter de l'eau aux régions qui n'en ont pas, c'est au contraire une politique de partage de l'eau et donner de l'eau aux régions qui n'en ont pas. Sur le papier, c'est parfait. Le problème, c'est que dans la réalité, il y a une mauvaise gestion de ces questions. Et bien souvent, on a créé des barrages qui ne servent à rien. On a parlé en Iran de mafia de l'eau. Et donc, c'est un problème de gestion politique générale qui fait que les mafias, notamment des travaux publics, construire un barrage, ça rapporte de l'argent à des gens qui ensuite se moquent de l'eau. L'essentiel, c'est de construire un barrage. À quoi il sert ensuite ? Peu importe, on a construit un barrage, c'est l'essentiel.
Est-ce que ces manifestations peuvent être dangereuses pour le nouveau pouvoir iranien ?
Ce qui est très intéressant, justement, c'est que le gouvernement de M. Raisi, qui a été élu il y a quelques mois maintenant, ce gouvernement a décidé de montrer cela à la télévision. Pour la première fois, les émeutes, les manifestations, elles ont été gigantesques à Ispahan il y a 3 jours, sont montrées à la télévision. Et ce problème de l'eau est mis sur la table. Cela dit, la crise économique, les sanctions américaines sur l'Iran sont telles que les gens sont chaos debout et n'ont même plus la force de se révolter. Qu'est-ce que ça va donner ? J'avoue que je n'en sais rien.
Interrogé par Olivier Bonnel, le chercheur Bernard Orcade, spécialiste de l'Iran, était ce soir, bien évidemment, l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera lundi matin à 8h30, heure de Rome. D'ici là, notre site internet www.vaticannews.va ainsi que notre page Facebook et notre compte Twitter. Excellent week-end à toutes et à tous.